Alors, il est 55, nous allons accueillir le prédicateur. Mais avant cela, nous allons nous disposer véritablement, disposer nos cœurs à recevoir la puissance de Dieu ce soir, à recevoir la grâce de Dieu, à s'abandonner véritablement à ce que Dieu veut faire pour chacun de nous ce soir. Bien-aimé, quel que soit ton niveau d'étude, quelle que soit ton appartenance ou ton niveau de responsabilité dans ton Église, ce soir, nous sommes tous à l'école. Donc, abandonnons-nous véritablement, humblement, à écouter le message qui sera diffusé par la puissance de Dieu. Quel que soit l'âge du prédicateur, quelle que soit sa petitesse ou sa grandeur, bien-aimé, ce n'est pas ce qui importe. Mais c'est le message caché derrière qui importe. Donc ce soir, peu importe la position que tu as, peu importe les problèmes que tu as, dis-toi que Dieu t'a entendu et il va se manifester à toi ce soir. Donc dispose ton cœur, dispose ton cœur. Laisse tes soucis de côté. Oublie tes querelles et rappelle-toi que la présence de Dieu est là ce soir. Et parce qu'elle est là ce soir au milieu de chacun de nous, elle va agir et se manifester puissamment dans nos vies. Donc, crois-le fermement. Parce qu'il est écrit dans le livre de Romains, au chapitre 8, que nous devons espérer en ce que nous ne voyons pas. Parce que nous sommes des êtres spirituels. Ce soir, sois un être spirituel. Vois au-delà de l'apparence physique. Vois au-delà de ce que tu peux imaginer et crois que Dieu est capable de tout, car rien ne lui est impossible. Donc ce soir, dispose ton cœur, laisse le Saint-Esprit t'enseigner de nouveau, laisse le Saint-Esprit souffler une fois de plus dans ta vie et impulser un souffle nouveau. Donc, on va juste prendre ce cantique pour permettre à Dieu de faire ce qu'il vient de commencer, parce que nous sommes déjà dans la présence de Dieu. Nous sommes déjà dans l'atmosphère de Dieu. Si quelqu'un connaît ce cantique, il peut le prendre de là où il est et le méditer. Méditer sur toutes les paroles. Ne pas forcément écouter la voix ou ne pas faire attention à la voix, mais méditer les paroles. Fais comme tu veux. Sur ton trône, fais comme tu veux. Là-haut dans les cieux, sur ton trône, fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Sur ton trône, fais comme tu veux. Là-haut dans les cieux, sur ton trône, fais comme tu veux. Saint-Esprit, viens maintenant prendre le contrôle au milieu de nous. Saint-Esprit, toi qui es le meilleur enseignant, viens nous enseigner, viens disposer nos cœurs maintenant à recevoir la parole qui sera relâché au nom de Jésus. Amen.
Amen. Est-ce que tout le monde m'entend?
Oui, Charlie, tout le monde t'entend.
Il n'y a pas de coupure, c'est tranquille.
Bon, jusque-là, ça va.
D'accord. Bien-aimé, j'aimerais te saluer dans la présence de Dieu. La parole de Dieu est tellement vivante et tellement présente qu'elle veut se manifester ce soir pour nos vies. Frères dans le Christ, je n'ai aucune prétention de dire que Dieu va agir. Mais vous voyez, la parole dit ceci, qu'il s'appelle fidélité. Son nom, c'est fidélité. Je ne sais pas par quoi tu passes. Je ne connais pas l'état intérieur de ton cœur. Je ne connais même pas ta situation sociale, mais je connais un Dieu. Ce Dieu-là s'appelle Jésus de Nazareth. Ce Dieu-là s'appelle le rejeton de David. Ce Dieu-là s'appelle le Tout-Puissant. Et il veut te dire ce soir qu'il y a de l'espoir, qu'il y a de l'espérance, qu'il y a de la vie et qu'il y a une opportunité d'être béni et d'être béni ce soir. J'aimerais que tu écris en commentaire bénédiction. J'aimerais que tu écris bénédiction, bénédiction, en commentaire bénédiction. Alléluia. Tu peux écrire bénédiction en commentaire, bénédiction. Alléluia. Bien-aimé, ton Dieu est vivant, ton Dieu est grand, ton Dieu est tout-puissant, ton Dieu est le Dieu de la gloire, ton Dieu est le Dieu de la puissance de Dieu, ton Dieu est le Dieu du miracle, ton Dieu est le Dieu qui sépare la mer rouge en deux, ton Dieu est le Dieu qui menace les démons et les mensonges. Ton Dieu est le Dieu qui libère les captifs. Ton Dieu est le Dieu qui restaure l'humanité. Ton Dieu est le Dieu qui est venu ce soir afin de s'adresser à toi en vue de manifester sa gloire. Est-ce que tout le monde m'entend bien?
Oui.
D'accord. OK. Bon, j'ai une lectrice déjà ici sur place. Elle va lire avec moi. J'aimerais que, bien aimé, vous savez, moi, il y a ce que j'aime m'appeler dans mes prédications, les réflexes du royaume. C'est quoi les réflexes du royaume? Lorsque tu pars dans un endroit où il y a une prédication, il faut toujours avoir ta Bible. C'est un réflexe du royaume des cieux. Pourquoi? Parce que le prédicateur peut se tromper de verset. Le prédicateur peut dire quelque chose qui n'est pas dans la Bible. Et si tu prends tout, tu ne vas pas discerner et tu ne vas pas penser, tu ne vas pas croire à dire à cette parole. Il ne suffit pas ce soir de dire amen, il ne suffit même pas de sauter, de crier. Il faut que la parole de Dieu, il faut que la parole du Christ, il faut que la parole que je prêche, qui n'est pas ma parole, pénètre tellement ton cœur qu'au sorti d'ici, tu puisses dire sanctification. Amen. Avant que nous commencions à prier, j'aimerais que tu fermes tes yeux et tu élèves tes mains. Tu peux lever tes mains, tu peux élève tes mains, ferme tes yeux. Bien, mais vous voyez, le Seigneur parle à Abraham. Le Seigneur dit à Abraham, Korembata karabasonde. Le Seigneur dit à Abraham, je veux te bénir. Regarde le ciel et Abraham voit les étoiles. Et Abraham est tellement rempli de Dieu à ce moment-là qu'il ne peut s'empêcher d'entendre cette parole. Vous voyez, dans les temps de prière, ce qui nous empêche d'entendre Dieu, c'est parce que nous sommes focalisés sur la marmite qui est au feu. Nous sommes focalisés sur « je n'ai pas encore payé le loyer, je n'ai pas encore… » Non, frères et sœurs, quand tu es dans la présence de Dieu, l'atmosphère de Dieu peut tellement saturer ta vie que pendant que tu es en train de m'écouter là, il y a une personne qui peut payer ton loyer. Pendant que tu es en train de m'écouter là, Dieu te donne une solution à ton problème. Ta solution est dans la présence de Dieu. J'aimerais que tu élèves tes mains et que tu ouvres ta bouche avec moi et que tu bénisses ton Dieu. Bénis Dieu, bénis Dieu. Remercie ton Dieu. Oh Seigneur, je te bénis. Oh Seigneur, je te loue. Oh Seigneur, je te magnifie. Oh Seigneur, gloire à toi. Honneur à toi, Seigneur. Qui est comme toi, mon Dieu? Seigneur, le ciel et la terre peuvent passer, mais ta parole, Seigneur, est éternelle. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, tu es tellement bon, Seigneur. Oh Jésus. Oh Jésus. Karabando sarabanda la baba shanda. Kimbara baba sondere baba shonda la baba karabashonda la baba. Oh Dieu. Oh Jésus de Nazareth. Oh le Fils de l'homme. Oh le rejeton de David. Oh, l'étoile du matin. Oh, le principe de la parole. Oh, l'alpha et l'oméga. La résurrection et la vie. le bon berger, le Messie, le Seigneur, l'Adonai, ô Jésus. Alléluia. J'aimerais que tu fasses quelque chose de très prophétique, que tu puisses prier avec un nom de Dieu. Peut-être en ce moment, tu as besoin de El Rapha, le Dieu qui guérit. Mais j'aimerais que pendant que tu dises le nom de Dieu, ô El Shaddai, le Tout-Puissant, ô El Shaddai, le Tout-Puissant, ô Dieu qui est amour et miséricorde, prends pitié de moi. Karababa Shanda. Karababando Sarata la Bakara Ndara Bakara Boshanda Rabasanda. Ô Dieu. O Sani Mana Manana Shana Mana Mana. Itolo tolena antale mana mashana nanana. Imala sotala o salalala. Imala la sotilima tolena mana mashana. Il y a quelques personnes pendant que je serai en train de prêcher. Je reçois clairement cela dans mon esprit. La parole de Dieu sera tellement comme un marteau. Et vos cœurs de pierre deviendront des cœurs de chair. Il y a deux femmes, pendant que je serai en train de parler, le Seigneur sera en train de vous guérir. Vous pourrez témoigner à la fin parce que ça sera une guérison physique, physique, somatique, soma en grec, le corps. Ce sera une guérison somatique, clair, c'est-à-dire après la prédication ou dans les heures, je ne sais pas, mais vous pourrez témoigner que Dieu est le Dieu qui guérit. Frères et sœurs, il ne s'agit pas d'un christianisme qui parle seulement. Il s'agit d'un christianisme qui démontre que Jésus est le seul Dieu, est le seul Seigneur et le seul Maître. Ton espérance ne se trouve pas dans un être humain. Ton espérance ne se trouve pas dans ta situation sociale. Ton espérance ne se trouve même pas dans un parti politique, dans une adhésion à une association ou même à tes diplômes. Ta vie est le résultat de la pensée de Dieu. Ta vie est le résultat de l'agir de Dieu. Cesse de pleurer, cesse d'être triste, cesse de penser que parce que les hommes ont maudit ta vie, que ta vie est maudite. Oh, ton Dieu est assez puissant, ton Dieu est assez grand pour te bénir. Tu n'as pas besoin de te compromettre pour réussir, tu n'as pas besoin d'une position canapé, tu n'as pas besoin d'aller te marier parce que tu suis les gens, tu as simplement besoin de la parole de Dieu. Il faut dire amen fort. Oh, ma sœur, Satan est un menteur, il te ment. Il n'est pas trop tard pour toi. Il n'est pas trop tard. Il revient bientôt, et peut-être c'est demain, peut-être c'est dans les minutes qui vont suivre, mais j'aimerais te dire, il n'est, et qui écrit en commentaire, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Je ne connais pas ta situation. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne connais pas l'état de ton âme. Je ne connais même pas ce que tu es. Mais je sais une chose. Il a dit dans Jean chapitre 8, « Moi, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » Dieu te dit, comme il a dit à cette femme, il ne te condamne pas. Beaucoup de personnes, lorsqu'ils viennent dans des temps de prière, sont tellement complexés parce qu'ils se disent, Seigneur, je n'ai rien à faire là. Oh Seigneur, celui qui prêche est mieux que moi. Oh mon frère, ma soeur, détrompe-toi. Moi aussi, je serai jugé par le Seigneur. Moi aussi, je pourrais aller en enfer parce que je n'ai pas encore fini mon ciel sur la terre. Je n'ai pas encore terminé de me convertir. Oh, j'aimerais te dire, Satan te trompe. Tant que tu vis, il y a de l'espoir. Tant que tu es sur pied, même à 5 minutes de ta mort, il y a de l'espoir. Ne laisse pas le démon te tromper. Ne laisse pas cette relation te faire douter de ton Dieu. Ne laisse même pas ta propre vie te faire croire que Dieu n'est pas puissant et qu'il n'est pas. Pour 3 femmes ici, il y a une qui a eu à commettre l'avortement. Il est miséricorde. Vous voyez, celui qui te parle était braqueur autrefois. Celui qui te parle a eu à agresser des personnes. Mais celui qui te parle aussi a réalisé qu'au-delà de ce que j'ai eu à faire, au-delà de ce que j'ai eu à penser, au-delà de ce que j'ai eu à commettre comme acte, le regard de Dieu demeurait immuable, c'est-à-dire n'a jamais changé. Tu tombes dans le péché et alors ton Dieu brûle d'amour pour toi. Tu pourras dire, mais Charlie prêche un évangile. Est-ce qu'il le vit? Oui, je ne le vis pas. Je suis un être humain. Mais je sais quelque chose. C'est que Jésus-Christ ne regarde pas en fonction de l'état. Il regarde en fonction de ce qu'il est. Et la Bible dit qu'il est doux et humble de cœur. Oh, la sanctification! Comment voulons-nous nous sanctifier si nous ne réalisons même pas que Dieu est amour, si Dieu est miséricorde? Au contraire, la sanctification n'est pas la punition. La sanctification, ce n'est pas Dieu prend son bâton, ne fait pas ci, ne fait pas ça. La sanctification est un acte d'amour vis-à-vis de notre Dieu et de notre ami Jésus-Christ. Avant que je ne commence ma prédication, je voudrais te le dire encore. Dieu est amour. Amen. Est-ce que tu peux écrire en commentaire, Dieu est amour, Dieu est amour. Oh Jésus. Karababa Shanda. Dieu est, nous sommes une trentaine, nous pouvons faire plus. Invite, Dieu est amour. Karababa Shanda. Seigneur, aide-moi à prêcher. Aide-moi à parler de ton nom, Jésus. Aide-moi à être transparent de toi. Seigneur, je n'ai aucun mérite de parler à mes frères. Et peut-être c'est la dernière fois, Seigneur, que je parle. Peut-être je mourrai dans mon sommeil. Peut-être pendant cette prédication, tu pourras me reprendre. Mais Seigneur, je veux. Non pas dire mes paroles. Mais je veux dire ta parole. Je ne veux pas, Seigneur, être simplement prédicateur. Mais je veux être aussi fidèle et écouter aussi. Seigneur, prêche à mon âme par le mouvement de ton esprit dans mon cœur. Seigneur, parle-moi, Jésus. Seigneur, talonche-moi s'il le faut, frappe-moi s'il le faut. Parce que, Seigneur, parler de toi, Seigneur, ça me vaut aussi quelquefois de me condamner parce que je n'ai rien encore compris de toi. Brise-moi, humilie-moi, abaisse-moi. Et surtout, comme Saint Jean de la Croix, Seigneur, je ne veux rien, mais je veux tout, toi Jésus. Au nom de Jésus, amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'une personne peut laisser son micro ouvert pour m'encourager à prêcher avec les amens vitaminés, comme certains disent?
Amen.
D'accord. Amen, oh amen, amen.
D'accord.
Amen, amen, amen.
Attends. Oui. Alix est là. Alix, tu es là? Waouh. D'accord. Est-ce que Alix est là? Alix Noëlla. Est-ce qu'elle est là? D'accord. Ce n'est pas elle. Une personne peut laisser son micro ouvert pour m'encourager à prêcher.
Amen.
D'accord. Bien-aimé, le thème de ce soir, c'est la sanctification. Mais le sous-thème de ce soir, alléluia, le tombeau. Le sous-thème de ce soir, c'est le tombeau. Il met le tombeau, m'écrit le tombeau, le tombeau, le tombeau, le tombeau. Le thème de ce soir, c'est la sanctification. Mais le sous-thème, c'est le tombeau. Vous allez comprendre pourquoi je dis justement ça. Amen.
Amen.
Amen. Nous allons lire un verset pour justement pour comprendre ce que je vais enseigner ce soir. Matthieu chapitre 27, des versets 57, des versets 51 à 60. Attendez quelques minutes, s'il vous plaît.
S'il te plaît, Mathieu.
Attendez, il y a une personne pour lire ici avec moi. Comment ça? Attendez, vous inquiétez pas. Une personne va lire ici avec moi. Voilà. Mathieu 27, Mathieu 27. Le sous-thème de soi, c'est le tombeau. Mathieu chapitre 27, 57 à 60. Voilà. Voilà, Matthieu, chapitre 27, 57 à 60.
Quand le soir fut venu, un homme riche de la ville d'Arimathée arriva. Il s'appelait Joseph et il était lui aussi disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate et lui demanda le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna de le remettre à Joseph. Celui-ci prit le corps, l'enveloppa dans un drap de lin neuf et le déposa dans son propre tombeau qu'il venait de faire creuser dans le roc. Puis, il roula une grosse pierre pour fermer l'entrée du tombeau et s'en alla. Quand le soir fut venu, un homme riche de la ville d'Arimathée arriva. Il s'appelait Joseph. Il était lui aussi disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate et lui demanda le corps de Jésus. Alors, Pilate ordonna de le remettre à Joseph. Celui-ci prit le corps, l'enveloppa dans un drap de lin neuf et le déposa dans son propre tombeau qu'il venait de faire creuser dans le roc. Puis, il roula une grosse pierre pour fermer l'entrée du tombeau et s'en alla.
Amen. Amen. Est-ce que m'entendez? M'entendez?
Amen. Oh, amen. Amen.
Amen.
Voilà.
Amen.
Oh, amen. Bien-aimé, lorsqu'on parle de sanctification, dans sanctification, il y a saint. Dans sanctification, il y a saint, frères et sœurs. Et sanctification, dans son origine, au sens où la racine du mot en grec, c'est akiazo. Peut-être je prononce mal. Cela signifie, je vais paraphraser, la séparation entre le profane et le sacré. En d'autres termes, il n'y a pas dans la sanctification une vie qui est contraire à celle de Jésus-Christ. Il faut dire amen fort. Amen.
Amen.
Mais frère, ouvre ton micro, encourage-moi à faire mon travail. Amen. Alléluia.
Amen.
Laisse ton micro ouvert.
Amen.
Bien aimé,
amen.
Notre problème, mon problème, ton problème, c'est que lorsque nous entendons sanctification, nous entendons vie chrétienne au sens où nous allons bénéficier de la bénédiction et pas de la sainteté de Dieu. Bien-aimé, les miracles, c'est bien. Prêcher, c'est bien. Parler en langue, c'est bien. Mais être saint, c'est mieux. Mais tu vas me dire, Charlie, comment ça se fait que je parle en langue, mais je ne suis pas saint? Les dons de Dieu sont sans repentance. Ça veut dire que tu peux être comme Samson, manifester la présence de Dieu, mais être loin de Dieu. Amen.
Amen.
Daniel, amen. Daniel, ouvre ton micro. Une personne, laisse son micro ouvert, s'il vous plaît. Pour que moi, je sache comment entendre. Voilà. Amen.
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 Voilà. Bien-aimés, il y a beaucoup d'entre nous. Nous avons prié, Dieu nous a exaucés. Nous avons jeûné. Nous partons à l'église. Mes frères et sœurs, il est possible même que tu respectes tout, mais que tu ne te sanctifies pas. Amen.
Amen.
Amen. Bien-aimé, la sanctification, ce n'est pas seulement fuir le péché. La sanctification, ce n'est pas seulement décider de ne pas tomber, décider de ne pas aller dans les bars, dans les boîtes de nuit, ou je ne sais, non. La sanctification ne se limite pas seulement à ça. Se sanctifier n'est pas seulement le fait de ne pas tomber dans le péché, être sur son nuage et dire non, moi je suis mieux que les autres et les autres, moi je ne pêche pas. Lorsqu'on parle de sanctification, on parle de vie consacrée.
Yes,
mes frères
yes.
et sœurs, quand on parle de consécration, on parle d'appel. Alléluia.
Yes.
Amen. Amen.
Vous allez comprendre pourquoi je dis le tombeau. Bien-aimé, tu ne peux pas te sanctifier si tu ne connais pas ton appel. Pourquoi? Parce que dans l'appel, il y a la vie. Dans l'appel, il y a la nature de l'appeler. Il faut dire amen fort.
Amen. Amen.
Beaucoup de chrétiens ne savent pas qu'ils sont appelés. Voilà pourquoi ils vivent comme des païens. Beaucoup de chrétiens ne savent pas qu'ils ont l'appel sur leur vie parce qu'ils pensent que le christianisme, c'est une question de religiosité. C'est une question, je suis catholique, je suis éveillé, je suis protestant. Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas d'avoir un père spirituel, d'avoir une mère spirituelle, d'avoir un grand-père. Il ne s'agit pas de ça. Le christianisme, il ne s'agit pas de dire que non, moi je suis pris en langue, ça fait 5 ans. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'appel. Il s'agit d'appel.
Amen.
Bien-aimé.
Amen.
Si ta vie ne se sanctifie pas, ce n'est pas parce que tu n'aimes pas Dieu, mais c'est parce que tu es ignorant de l'appel.
Amen. Amen.
Le tombeau. Qu'est-ce que Charlie raconte? Bien-aimé, la Bible dit dans l'Ancien Testament et même dans le Nouveau, dans l'Ancien, que les prophètes ont prophétisé la mort de Jésus. Mes frères et sœurs, l'apôtre Paul nous dit que c'est par la mort du Christ que nous avons part à la rédemption. En d'autres termes, Jésus a dû passer par le tombeau en vue d'accomplir son appel. Tu vois, la sanctification, c'est décider de mourir en vue que ton appel soit l'appel qui est compatible avec ce que Dieu a dit sur ta vie. Je vais dire ça en français. Vous voyez, lorsque Dieu t'appelle à être chrétien, le résultat de ça, c'est être comme Jésus-Christ. Et comme être comme le Christ dans la sanctification, il faut passer par le tombeau.
Amen.
Amen.
Yes.
Bien-aimé, le tombeau ici, c'est quoi? Tu dois laisser quelque chose pour gagner ton appel. Bien-aimé, lorsque tu dis oui à Dieu, par rapport à ton appel, tu te sanctifies, tu deviens saint, tu deviens comme lui. Beaucoup d'entre nous partons à l'église. Mais Dieu nous appelle à Ninive, mais nous partons à Tarsis. Beaucoup d'entre nous, le Seigneur nous appelle à Jérusalem, mais nous partons en dehors de Jérusalem. Beaucoup d'entre nous, Dieu nous dit de rester là, mais nous voulons faire comme les hommes disent.
Amen.
La sanctification trouve son appui au tombeau. Tu dois mourir. Tu dois décider de répondre à l'appel. Tu dois décider que le tombeau du Christ, qui est un lieu de mort, qui donne la vie à travers ton appel, te permette d'être saint. Quel est ton appel? Je te pose la question parce que tu le sais dans ton cœur. Bien-aimé, Jérémie est devenu saint. se sanctifiait parce qu'il a répondu à l'appel. Premier niveau de la sanctification pour ce soir, c'est d'abord répondre à l'appel de Dieu sur ta vie. Le Christ a répondu à son appel et nous avons vu la conséquence, il est allé au tombeau. Et il a été ressuscité.
Amen.
Non, je ne me comprends pas bien. Je dis ceci. Si tu es ignorant de ton appel, si tu es ignorant de qui tu es dans le Seigneur, si tu ne réalises pas que tu es appelé par Dieu et que tu ne vis pas selon cet appel-là, voilà pourquoi dans les jours qui vont suivre les deux dernières prédications, il faut être là pour que tu puisses avoir la révélation de ça. Amen. Si tu viens prier seulement aujourd'hui, après tu pars, tu n'auras pas le reste. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, demain, Amen. Il faut être là. Demain, il faut être là. C'est une fois.
Amen.
Demain, il faut être là. Demain, Dieu va te bénir. Il faut être là demain. Il faut être là tous les 3 jours. Et je disais ceci. L'appel sur nos vies, frères et sœurs, est un lieu fondamental en vue de se sanctifier. Je connais des personnes qui ont décidé qu'elles ne prêchent plus l'évangile, qui ont décidé que non, moi, je pars seulement à l'église les dimanches, mais qui savent qu'ils sont appelés à être prédicateurs.
Amen.
Je connais des personnes qui savent qu'ils doivent prier pour des malades, mais qui le savent et disent qu'ils ne le font pas. Je connais une personne qui a décidé volontairement d'aller dans un autre endroit parce qu'elle estime que ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent est mieux que le plan de Dieu. Bien-aimé, même si cette personne-là ne vit pas dans la fornication, même si cette personne-là ne vit pas dans le péché, en fait, elle ne vit pas dans la volonté parfaite de Dieu. Lorsque tu réponds à l'appel de Dieu, tu vis dans sa volonté parfaite. Lorsque tu décides dans ton cœur de ne pas répondre à l'appel de Dieu, même si tu es une personne de bien, même si tu fais tout de bien, aux yeux de Dieu, tu es un bon chrétien, mais il y a quelque chose qui manque. Et tu peux le sentir. Il y a beaucoup d'entre nous, nous prêchons l'évangile. Mais Dieu nous a par exemple dit que lorsque toi tu dois prêcher, je vais par exemple que tu pries pour les malades, mais tu vas dire non, on va me voir comment. Oui, tu prêches, mais parce que tu n'auras pas fait ce que Dieu a dit par rapport à ton appel, tu seras dans ton cœur que tu ne fais pas la volonté de Dieu. Oh, bien-aimé, être une personne bien ne signifie pas qu'on est dans notre appel. Donner l'argent aux pauvres ne signifie pas que tu es dans l'appel. Comment savoir au final qu'on est dans l'appel de Dieu? C'est 2 choses et je passe. Premièrement, frères et sœurs, c'est que notre vie ne nous appartient plus. Bien-aimé, lorsque le Seigneur s'est révélé à Paul, Paul a su que sa vie ne l'appartenait plus. Lorsque Dieu te parle par rapport à ton appel, le signe que c'est vraiment lui qui t'appelle et que tu vis cet appel, c'est que tu ne marches plus pour toi. Tu marches maintenant pour les choses du ciel. Moi, je connais un vieux père à moi qui est un prédicateur, il est opticien. Même quand il est au travail, quand il appelle au palais de Dieu, il répond. Pourquoi? Parce que dans son cœur, il sait qu'il doit, sa vie ne l'appartient plus. Même quand il doit aller voir ses parents, il va d'abord aller pour les choses de Dieu. Toi, Charlie, ma mère, non, je n'ai pas encore eu ma mère, ça fait 2 jours. Bien-aimé, tant que tu réfléchis encore comme ça, tu ne vis pas encore l'appel. Tant que tu es encore, j'ai d'abord suivi Netflix. Bien-aimé, tu ne vis pas encore là. Ta vie ne doit pas t'appartenir. Ta vie, tes choix, ta manière de vivre doit être la manière de Dieu. En fait, bien-aimé, lorsque tu vis dans l'appel, tu respires Dieu. Tu vis Dieu. Ta vie dit Dieu. Même lorsque tu ne parles pas, on sait que celui-là, sa vie est conduite par l'Esprit de Dieu.
Amen.
Amen.
Bien-aimé, connaître Charlie ne garantit pas le ciel. Connaître Emmanuel ne garantit pas le ciel. Mais connaître le Saint-Esprit garantit entrer dans son appel.
Amen.
Ce ne sont pas seulement des paroles que je te dis ce soir. Ce ne sont pas seulement des mots qui jaillissent de mon être. Mais c'est l'atmosphère de Dieu pour ta vie que je suis en train de parler là. En fait, tu vis trop pour toi. Nous sommes égoïstes. Nous passons plus de temps sur Facebook que avec dans la présence de Dieu.
Amen.
Il y a quelque temps, là, un vieux père à moi me disait, mais Charlie, et je me convertis en public pour ça, je ne lisais plus la Bible. Frères et sœurs, parce que lorsque nous prêchons l'Évangile, nous pensons que nous sommes mieux que les gens. Nous pensons que la parole, l'Évangile, est maintenant inscrite en nous au point où on ne peut même plus lire la Bible. Ta vie ne t'appartient pas. Ne vis pas comme les autres. Tu n'es pas les autres. Tu es toi. Il y a des gens, pendant que je suis en train de parler, tu sens que tu es dans une posture où tu n'obéis pas à Dieu. Bien-aimé, comme me disait un vieux père à moi, il y a des chutes où on ne se relève plus. Fais attention, faisons attention. Beaucoup de chrétiens aiment justifier le fait qu'on ne parle pas à l'église. Beaucoup de chrétiens aiment justifier que non, tel il est bon. Non, Charlie, tu vois, lui, il a fait la charité. Je peux faire la charité, mais ça ne veut pas dire que je suis le Dieu. Est-ce que ma vie est conduite par l'Esprit? Est-ce que lorsque Dieu me dit d'aller à gauche, je pars à gauche ou je vais à droite? Lorsque tu vis dans l'appel, ta vie ne t'appartient plus. Retenez bien ceci, hein. Ta vie, je dis bien ceci, V-I-E, ta vie, vie, ne t'appartient plus. Une fois, vous voyez, je termine par là, j'ai vécu une... Alléluia, Koremba Taka. Un jour, j'ai appelé ma maman, j'ai fait le flash, j'ai fait le forfait, et j'ai dit à ma mère, allô maman, tu sais que je t'aime. Elle m'a dit, Charlie, il y a quel problème? J'ai dit, en fait, je ne t'appartiens plus. J'appartiens à Jésus-Christ. Je suis désolé pour toi. Si tu veux aller loin avec Dieu, tu dois mépriser ta vie au point où Jésus soit tellement présent que même dans ta transpiration, on lise et on dise Jésus-Christ de Nazareth.
Amen.
Amen. Deuxième chose. Comment savoir qu'on vit son appel? Beaucoup vont me dire c'est la bénédiction. Beaucoup vont me dire c'est avoir l'enfant, avoir le mari. En fait, ce n'est pas ça. Regardez ce qui se passe. Regardez. Le Seigneur. Vous voyez, dans la Bible, excusez-moi, on nous dit qu'il y avait un enfant qui est né. Il s'appelle Moïse, sauvé des eaux. Moïse est dans la maison. Alléluia. Moïse est dans la maison de Pharaon. C'est ça, non, André? Moïse est dans la maison de Pharaon et il est en train de marcher. Moïse voit la souffrance de son peuple. Et Moïse est embêté. Bien-aimé, lorsque tu vis l'appel dans le monde, tu n'es pas à l'aise parce que tu souffres de voir le monde courir à sa perte. Celui qui vit l'appel n'est jamais content. Excusez-moi, ça paraît bizarre. Tu es tout le temps malheureux parce que tu vois les gens détruire leur vie quand tu passes sur TikTok. Quand tu es dans la rue, tu vois des personnes qui vivent de manière immorale et tu es blessé. Ça veut dire que dans le monde, ta marche est une blessure perpétuelle. Lorsque tu vois une personne qui renie le Christ, ça te fait mal. Lorsque dans ta famille, les gens ne se parlent pas, tu veux réconcilier les gens. Lorsque dans ta vie, tu ressens qu'un frère n'est pas en Dieu, tu es blessé. Et tu vas souvent tendance à porter le poids de tout le monde. Tu vas vouloir prêcher à tout le monde. Quand tu as 500, tu vas vouloir partager à tout le monde. Quand tu vois une personne qui est infirme, tu vas parfois vouloir dire, « Oh Seigneur, si j'avais même pouvoir là pour élever cette personne. » qui est dans ce cas-là peut mettre ça en commentaire. C'est que tu es en train de vivre l'appel. Même quand tu es dans une prédication, prêche. Même si tu es converti, ça fait 10 ans, tu pleures comme un enfant, tu pleures comme un bébé, tu crains parce que tu ne sais même pas si après les 10 ans là, si tu as encore servi le Seigneur. Lorsque tu tombes dans le péché, tu sais bien que tu tombes, mais tu es conscient que tu vas te relever par et tu ne sais pas pourquoi. Lorsque tu pars commettre un péché, lorsque tu veux tomber dans un péché, c'est là où Charlie t'appelle, c'est là où André t'appelle, c'est là où Emmanuel t'appelle. C'est comme si ta vie dans le monde était une vie où tu devais tellement souffrir dans ton cœur parce que les gens ne connaissent pas le Dieu que tu as. Frères et sœurs, c'est cela la sanctification. La deuxième dimension, bien aimé, dis avec moi le tombeau. Alléluia. La deuxième dimension, c'est l'appel. La deuxième chose, frères et sœurs, par rapport à la sanctification. Mais ce n'est pas la souffrance. Vous savez c'est quoi? C'est le fait de ne pas être exaucé. C'est le fait de ne pas entendre Dieu. C'est le fait de ne pas voir le fruit de la prophétie s'accomplir. C'est le fait de venir dans un temps de prière, tu es malade, tu retournes avec ta maladie. C'est le fait de venir dans un temps de prière, tu es désespéré, retourne avec le même sentiment. En fait, pendant que tu vis ça, le Seigneur te sanctifie. Mais pourquoi tu ne le sais pas? Parce que tu as cessé de croire que tout ce que Dieu fait est bon. On le dit souvent. On le proclame souvent, mais on ne le vit pas souvent. Oui, on dit souvent, vrai. Seigneur, j'accepte de te servir s'il n'y a pas de travail, mais lorsque cela arrive, on dit en même temps, Seigneur, je veux le travail parce que je n'ai pas de situation, mais sinon je veux le royaume des cieux. Donc, comment ça se fait? Ça fait en sorte qu'on est blessé, et lorsqu'on écoute une parole de prophétie qui dit que tu auras le travail, après 5 ans, tu ne crois pas parce que tu as cru en toi-même et au monde, au lieu de croire en Dieu. Bien aimé, par le manque d'exaucement, par ta maladie, par ton chômage, Dieu te sanctifie. Cela paraît bizarre. Amen. Bien aimé, lorsque je n'étais pas chrétien et que je me suis converti, je me suis inscrit à l'école en 3e. J'avais fait 5 ans sans aller à l'école. J'ai redoublé la première année. Et lorsque j'ai échoué le BPC, échoué d'office hein, la première année, je riais parce que je savais que Dieu me sanctifiait par cet échec-là.
Amen.
Et quand je suis reparti à l'école, frères et sœurs, allez-y à Mikolongo vous renseigner. Quand je me fâche, je suis parmi les 7 premiers.
On t'est fâché tous les jours, amen.
Quand il ne me fâche pas trop, hein, c'est parmi les 7 premiers, mais quand je suis en forme, je suis dans les 3 premiers. Pas parce que je suis un super chrétien. C'est parce que, amen, c'est parce que dans l'échec là que je vivais là, le Seigneur me sanctifiait.
Amen.
Ton problème, c'est que tu vis l'échec dans la chair, vis l'échec dans l'esprit. Tu vas comprendre qu'il y a un message de sanctification pour toi. Le problème des Gabonais, c'est qu'ils veulent le beurre et l'argent du beurre. Le problème des femmes gabonaises et des hommes gabonais, ils veulent Dieu, mais ils veulent réussir en même temps dans le monde. Mais pour cela, tu dois connaître le silence, l'échec, le manque d'exaucement pour comprendre que c'est là où Dieu te veut pour te sanctifier. Exemple biblique pour nous amener à comprendre ça. Frères et sœurs, la Bible dit ceci, qu'il y avait un homme du nom de Siméon. Siméon a attendu la promesse de Dieu. Siméon est devenu vieillard en attendant la promesse de Dieu. Le prince Charles devient prince à 60, combien d'âge? Ça veut dire que c'est comme si, à quel âge?
73 ans.
Il devient roi à 73 ans. Le propriétaire de KFC réussi à peut-être 80 ans, un truc comme ça. Denzel Washington est devenu grande star en retard. Morgan Freeman. Frères et sœurs, c'est dans l'échec que Dieu te rend comme lui. C'est dans le manque là, le manque que tu as là, que Dieu te rend semblable à lui. Mais toi, ton problème, c'est que tu aimes écouter les prédications des motivateurs.
Amen.
Soit la bouteille de gaz de ta destinée, soit... Non. Vis ce temps-là en Dieu. Si tu dois aller à l'église en marchant, marche. Si tu dois accepter de balayer, ce n'est pas grave. Si tu es dans un groupe de prière et qu'on te sanctionne, on dit non, tu ne prêches pas, alors que tu sais que tu es rempli du Saint-Esprit, il faut balayer, balayer. Je t'assure hein, que je préfère être inconnu et vivre Dieu que d'être connu et d'aller en enfer. Je préfère,
Amen.
Je préfère ne pas avoir d'enfant et sûr d'être allé au ciel que de faire Amen. Les jumeaux et d'aller brûler en enfer.
Alléluia.
Ton problème, c'est que tu dis Amen, mais tu dis Charlie, toi, tu ne connais pas la vie. Moi, j'ai 40 ans. J'aimerais aussi dire que ton problème, c'est que tu peux aussi mourir à 40 ans. Moi aussi, je peux mourir à l'âge que j'ai. Donc, ça veut dire que Amen. Sur la terre, nous sommes des personnes qui nous cherchons. Bien-aimé, dans la souffrance, dans ce que tu vis, je ne vais pas te dire qu'il y a la croix. Tu entends, non, après la pluie, il y a le beau temps, un jour, Dieu va se lever. Non. Je ne vais pas te dire ça aujourd'hui. Je vais te dire quoi? Si tu es malade, non, prends les comprimés. Aime Jésus. C'est bizarre ce que je dis. Si tu as un mari de nuit, ce n'est pas grave si tu vis cette nuit. Tant que tu aimes Jésus-Christ, tu pars au ciel, c'est le plus important. Mais qu'est-ce qu'il raconte? En fait, je vais te dire quoi? Que le plus important, c'est d'aimer le Christ. Vous voyez? Satan sait que si tu tombes dans le péché d'impureté... Vous ne voyez pas que c'est bizarre, hein, Daphné? Il y a des gens qui tombent dans le péché d'impureté au point où ils pêchent tellement, ils manifestent l'onction... Mais le diable continue à les persécuter. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a encore la semence et l'amour dans leur cœur. Satan veut que tu renies Dieu au point où tu deviens anathème. C'est-à-dire que tu deviens inique. Ce qu'il recherche. Voilà pourquoi il disait au début qu'il n'est pas trop tard pour revenir à lui. Satan s'en fout de t'envoyer un mari de nuit. Satan veut que tu maudisses Dieu et que tu ne sois plus chrétien. Que tu vis dans le monde. Voilà pourquoi tu as comme l'impression, toi qui tombes dans un même péché, que le plus souvent, tu es plus enfant de Dieu que certains, pourtant tu pèches. En fait, c'est parce qu'il y a la semence et l'amour dans ton cœur. Tu comprends maintenant, non?
Mais...
Voilà. Ça veut dire que même si tu tombes dans le péché, le diable n'a pas voué la semence et l'amour de Dieu. J'aimerais te dire, peu importe ton état, aime Dieu, c'est le plus important. La Amen. Sanctification. Amen. Mais pour comprendre ça, le tombeau. Tu as besoin de mourir, d'être seul, d'être avec Dieu seul. La troisième chose, et nous allons prier. Bien-aimé, la sanctification est possible. Alléluia. Par quoi? Dis avec, écris en commentaire, Charlie, avance. Écris avance pour que je puisse t'expliquer.
Charlie, avance.
Écris en commentaire pour que je puisse t'expliquer. Nous sommes à 36, on peut faire. Fais les choses, on peut faire mieux, on peut faire mieux. On peut faire mieux.
Charlie, avance.
Nous sommes déjà à 40, on peut faire mieux. Alléluia.
Amen.
Regardez. Comment peut-on se sanctifier, Charlie? Charlie, comment peut-on se sanctifier? J'ai dit qu'il faut l'appel. J'ai dit qu'il faut comprendre que tout ce que Dieu fait est bon. La troisième chose. Alléluia. La troisième chose. Waouh. troisième chose, c'est être orgueilleux.
Hein?
Oh, mais comment ça? Bon, j'ai même peur. Un jour, je parlais à mon vieux père et il me disait, Charlie, écoute bien ceci, Charlie. L'état que tu as ressenti lorsque tu tombais dans le péché, garde cet état-là parce que cela va te préserver pour être saint. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Qui me comprend?
Pas moi.
Tu as compris ce que je veux dire, non? Regardez. Remarquez bien que lorsque vous tombez dans le péché, tu es vulnérable. C'est-à-dire que tu aimes tellement Dieu parce que tu veux te repentir que c'est comme s'il a fallu que tu tombes pour te convertir et accepter Dieu nouvellement. Qui voit ce que je veux dire par là? Qui voit ce que je veux dire?
Moi.
Bien-aimé.
Moi.
Bien-aimé. C'est dans le péché que tu as la révélation de Dieu, mais c'est par le péché que tu deviens humble. Le troisième moyen pour se sanctifier, c'est l'humilité. Mais l'humilité ne vient pas si tu es trop saint. L'humilité vient parce que tu te reconnais misérable et que tu as besoin de la main de Dieu pour te sortir de là. Il faut dire amen fort.
Amen.
Amen. Bien-aimé, c'est parce que David est tombé avec la femme du riz qu'il a supplié la miséricorde de Dieu en vue d'être sauvé. C'est parce que Paul a eu à pécher qu'il a écrit les épîtres et aujourd'hui tu sais que il faut fuir la fornication. C'est parce que tu as avorté que tu sais ce que ça fait de ressentir cette misère liée à l'avortement. Bien-aimé, c'est par le moins de l'humilité que Dieu nous donne de nous sanctifier. Mais pour cela, tu as besoin d'être brisé. Et comment Dieu te brise? Écoutez bien, je n'encourage pas à pécher. Mais le moyen par excellence que Dieu permet pour briser l'homme, c'est le péché. Je ne vous encourage pas à pécher. Hein. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit?
Oui,
amen. Et je dis ceci. Lorsque tu es tombé dans un péché, ce que tu as ressenti là, comme misère, il faut le préserver. Pourquoi? Parce que quand tu seras dans l'état de grâce, tu vas savoir en fait que tu n'es pas si grand chose que ça. Tu es un pauvre pécheur. Voilà pourquoi il y a des gens, par exemple, tu as péché depuis 2015, mais c'est comme s'il y a toujours cette culpabilité-là par rapport à ce péché. En fait, ce n'est pas forcément le démon, c'est que c'est Dieu qui veut t'amener à dépendre et à supplier son amour et sa miséricorde.
Amen.
Bien-aimé, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Ça ne veut pas dire que Dieu nous encourage à pécher, mais ça veut dire la chose suivante. Que pour que tu réalises que tu as besoin de te sanctifier,
oui,
il faut que tu reconnaisses que tu es qu'un pauvre pécheur. Oui. Oh, tu n'es rien.
Amen.
Tu es qui pour pointer du doigt Emmanuel Nzoma? Ou à un prédicateur ou à un prêtre, tu es qui? Tu n'es rien. Tu n'es qu'un pauvre pécheur. Tu es poussière et tu retourneras poussière. Nous sommes poussière, frères et sœurs. Beaucoup de chrétiens, parce qu'ils ne tombent pas dans le péché, deviennent tellement orgueilleux. Ma prière ce soir, c'est que Dieu te brise. Il te brise tellement que lorsqu'un frère va te dire que je me masturbe, que tu ne puisses pas rire, que tu ne puisses pas les raconter, que sa souffrance soit ta souffrance. Combien de chrétiens parmi nous ont peur de se confier aux frères? Parce que quand tu vas dire à un frère que tu es tombé, il va te juger.
Amen.
Combien de chrétiens Amen. Jugent les gens sur la plateforme? Je suis désolé de dire ça. La majorité des personnes qui lancent des pierres aux autres, ce sont les chrétiens, frères et sœurs. Il y a des personnes parmi nous, si on fouille nos téléphones, nous avons des films pornographiques. Il y a des gens parmi nous, tu es tombé dans la fornication, tu n'as jamais eu d'enfant, jamais de maladie. Amen. Pendant qu'il y a des gens, quand ils tombent une fois, ils ont la maladie, ils meurent. Amen. Arrêtons d'être orgueilleux. Il y a beaucoup de personnes, ils sont tombés depuis 2018, mais 2020, leur péché est connu. Dieu a déjà pardonné, toi tu publies.
Amen.
Faisons attention. Recherchons l'humilité, frères et sœurs. Ce n'est pas parce que tu ne tombes pas dans un péché que tu es meilleur que ton frère.
Alléluia.
Je n'ai pas mieux qu'Emmanuel Nzoma. Je ne défends pas Emmanuel Nzoma, mais je dis ceci. La Bible dit que lorsque ton frère est faible, il faut être avec lui. Yes. Je ne dis pas que j'encourage le mal. Si un mal qui a été fait, il faut dénoncer. Mais je dis ceci. Chrétiens, arrêtons d'être des accusateurs. Chrétiens, arrêtons d'être des personnes qui accusent au point où nous remplaçons Satan dans son travail. Toi, aujourd'hui, tu oses dire à une personne que non, tu es tombé, tu n'aimes pas Dieu. Oh là là! C'est toi qui couchais avec trois hommes en même temps qui dis ça aujourd'hui. Toi, dans ton cœur qui n'arrive pas à pardonner, mais tu as une personne qui fornique, qui fait arrêter la fornication. Oh, que c'est dommage de voir des personnes qui regardent seulement la vie des autres, mais pas leur vie. Oh, que c'est dommage. C'est dommage quand je parle sur Facebook. Je vois des gens qui connaissent la Bible pour accuser, mais qui ne connaissent pas la Bible pour aimer. Oh, c'est dommage quand je parle sur Facebook. Je vois une publication où on dénonce Emmanuel Nzoma. C'est bien de le faire. Mais je n'ai pas vu une publication pour dire on va prier pour lui et qu'il se convertisse. Toi, lorsqu'on te blesse, on a le droit à se on a le droit de te pardonner. Mais lorsque toi tu blesses, tu ne demandes pas pardon. Ce n'est pas cela être chrétien.
Amen.
Tel est catholique, ce sont des idolâtres. Tel est veillé, ce sont des gens qui aiment crier.
Amen.
N'est-ce pas, nous sommes frères? Non, je ne peux pas prier là-bas parce que là-bas, ils sont comme ça. Est-ce que tu es mieux que le pasteur et le prêtre? Est-ce que si on met ta vie sur un écran plasma, est-ce que tu es digne d'être appelé chrétien? Il y a beaucoup parmi nous, si on expose nos téléphones qu'on a fait à Ida Moulaka, je nous assure, hein, beaucoup arrêteront de marcher dehors là. Soyons humbles dans la vie. Arrêtons, frères et sœurs. Je ne dis pas qu'il ne faut pas dénoncer le mal. Je ne dis pas ça, mais je dis ceci. Hein. Beaucoup, parce qu'ils regardent trop la vie des autres, eux-mêmes sont des homonymes et des sosies parfaits de Satan. Toi qui es éveillé, toi qui es catholique, toi qui es protestant, j'aimerais te dire ce soir, je n'ai rien à cirer. Ce que je sais, c'est que tu es mon frère et tu es ma sœur. Le reste, je m'en fous. Garde tes aptitudes intellectuelles pour toi. Ça sert à quoi d'avoir 5 diplômes en théologie? Ça sert à quoi de connaître tout sur l'église catholique, tout sur l'église des réveils si ton cœur n'a pas l'amour, si tu n'es pas humble? Ça ne sert à rien. Tu es pareil qu'un franc-maçon, tu es pareil qu'un bouddhiste, tu es pareil qu'une personne qui n'est pas chrétien. Même les musulmans vivent mieux que les chrétiens. Nous sommes méchants. Nous le sommes, frères et sœurs. Mais mon cœur est blessé quand je le dis. Les chrétiens sont méchants. Les musulmans sont mieux que nous. Les païens sont mieux que nous. Nous sommes que dans les futilités, les débats stériles, frères et sœurs. La sanctification demande de voir ton frère comme Jésus-Christ. Tu pourras me dire, mais Charlie, encourage au péché. pense ce que tu veux. Mais Jésus a parlé à la femme samaritaine. Jésus a parlé aux publicains, il a mangé avec eux. Tu te prends pour qui? Nous nous prenons pour qui, frères et sœurs? Emmanuel Nzoma est magicien. Et puis quoi? Qui t'a dit que les magiciens ne se convertissent pas? Tel pasteur est sorcier, tel prêtre est sorcier. Qui t'a dit qu'ils ne peuvent pas se convertir? Qui t'a dit que la conversion était une affaire de ta famille et de ta maison, de ta Bible, de ton cœur seulement? Hypocrite, nous le sommes. Non, je n'écoute pas Marcelo parce que Marcelo a parlé mal de la Vierge Marie. Mais prie pour lui, se convertit. Non, je n'écoute pas tel prêtre parce qu'il a parlé mal de l'église de réveil. Est-ce que parce qu'un évêque critique l'église catholique que tu dois le faire? Est-ce que parce qu'un catholique critique l'église de réveil que tu dois le faire? Nous sommes chrétiens. Ce qui nous permet de savoir que nous sommes chrétiens, ce n'est pas les miracles, ce n'est pas le bâtiment, c'est l'amour. Vérité. Ce n'est pas parce qu'un musulman critique un chrétien que tu dois le faire. Ce n'est pas parce qu'un pasteur dit que l'église catholique est la salle d'attente de l'enfer que tu dois aussi croire à ça. Il faut aimer. Arrêtons d'être des fanatiques. Arrêtons d'être des fanatiques. Emmanuel Nzoma a besoin de la prière. Amen. Autant que toi. Je ne défends personne. Mais vous savez, lorsque je regarde ma vie dans un miroir, je me dis, mais pourquoi Dieu me fait encore la grâce? Il y a des gens, tu es peut-être tombé même avant cet appel, tu es tombé dans le péché. Mais c'est toi qui vas les mettre sur le clavier. Il faut que Emmanuel Zoma se convertisse. Oh, fornicateur, convertis-toi. Il y a des personnes, ils ne parlent pas avec leurs parents. C'est-à-dire que c'est des personnes qui en veulent à leurs parents dans leur cœur. Des personnes qui n'ont pas pardonné, ça fait 5 ans. Mais je vois sur la page de Badeko en chef, venir commenter et dire qu'Emmanuel Zoma doit se convertir. Tu es un sorcier, une sorcière. Il y a des personnes, ils ne sont même pas en accord avec Dieu. Mais quand c'est les débats de Dieu, ils sont savants. Oh, tu es un sorcier, une sorcière. Il y a des gens qui connaissent seulement les versets bibliques quand c'est pour attaquer les religions, mais ils ne connaissent pas les versets bibliques quand c'est pour aimer et être humble.
Vérité.
Sorcier, sorcière. Nous le sommes. Allez dire de moi ce que vous voulez. Moi, Emmanuel Nzoma, c'est mon frère. Moi, Sylvia Bongo, c'est ma mère. Allez-y, racontez ce que vous... Pourquoi? Parce qu'il faut aimer qu'on est chrétien. Il faut aimer. La Bible dit quoi? Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Est-ce que tu as pris un temps pour jeûner pour ton frère? La sanctification, c'est vivre dans l'amour. Tu peux casser, briser, tu peux même aller sur la montagne 50 jours. Mais s'il n'y a pas d'amour dans ton cœur, cela ne sert à rien. Pour terminer, j'aimerais te faire ce témoignage. Que tu réalises vraiment pourquoi il faut aimer les gens. Vous voyez, avant j'étais très dur avec moi-même. Avant j'étais un bon religieux. Pour moi, tout ce qui n'était pas catholique était faux. Et je suis tombé sur EMC TV. J'ai vu des personnes, les Jérémy Soudil, prêcher l'évangile avec amour. Et j'ai pris une résolution dans mon cœur. Même si nos frères protestants disent que les évêques sont dans l'erreur, j'ai accepté d'aimer ces frères-là comme ça. Même si les musulmans disent que Jésus n'est pas Dieu, j'accepte d'aimer mes frères-là comme ça. Pourquoi? Parce que Jésus a aimé et il a donné sa vie par amour.
Amen.
Continuons à faire les débats religieux. Hein? Continuons à regarder la vie des autres. Hein? Si tu meurs comme ça, tu vas aller en enfer. Si nous mourons comme ça, nous irons en enfer. Il ne s'agit pas de ça. Aime. Aime et aime encore plus. J'aimerais que tu fermes tes yeux, nous allons prier. J'aimerais que tu fermes, que tu puisses demander pardon à Dieu dans ton cœur. Demande pardon à Dieu. Je vais couper mon micro, nous allons demander pardon à Dieu pendant un instant. Demande pardon à Dieu. Amen.
Amen.
J'aimerais poser cette question. Y a-t-il des personnes qui ont des colères ou qui ne s'entendent pas avec certaines personnes de leur entourage ou de leurs membres de leur famille? Vous pouvez écrire en commentaire. Est-ce que vous décidez d'aller voir ces personnes et de vous humilier même si vous avez raison? Ce n'est pas grave. Bien-aimé, même si c'est un sorcier, même si c'est un franc-maçon, s'il te dit qu'il ne veut pas le pardon, éloigne-toi de lui parce qu'il ne veut pas ta présence, mais arrange-toi dans ton cœur à l'aimer comme le Christ a aimé. S'il est très hypocrite, prie pour lui et aime. Parce que toi, demain aussi, il y a une occasion où tu pourras être hypocrite envers une personne. S'il te dit qu'il ne t'a jamais aimé, aime. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas le Christ. Mais le Christ aime quand même.
Mais...
Si la personne est méchante avec toi par des mots, regarde cette personne dans les yeux et dis « Je t'aime ». Si cette personne te parle mal, va dans le lieu secret, pleure. Dis à Dieu que tu es frustré parce qu'on t'a parlé mal. Élève-toi et aime. Si la personne ne change pas, livre cette personne à Dieu. Toi, aime. Et cette personne s'occupera de juger. Dieu s'occupera de juger cette personne. Arrange-toi à aimer. Mais arrange-toi surtout à ne pas prendre la place de Dieu. C'est Dieu qui juge, ce n'est pas toi.
Amen.
Ferme tes yeux et demande dans ton cœur la grâce de l'humilité. La deuxième chose que nous allons faire, et je ne sais pas si Andra a quelque chose à dire, à nous partager. La deuxième chose que nous allons faire, et puis je vais passer la parole à André. Ce soir, avant de dormir, prends un temps et prends le temps de voir tous les péchés que tu as eu à faire et réalise la fidélité, la miséricorde de Dieu pour ta vie. Pourquoi? Lorsque tu vas faire ça, les écailles vont tomber de tes yeux. Et tu vas voir que les endroits où tu as pensé agir chrétiennement, mais que tu as été un juge et que tu as condamné, que tu n'as pas aimé. Et pourtant, dans la forme, tu aimais Jésus, mais dans le fond, c'était ta propre gloire. Je répète bien, avant de dormir ce soir, prends un temps pour te remémorer les temps où tu es tombé et que cela te conduise à voir la fidélité de Dieu. Et lorsque ça va arriver, tu vas te rendre compte que les écailles vont tomber de tes yeux. Et quand tu as souvent pensé à agir comme un chrétien, tu as agi en fait comme un pharisien. Tu n'as pas agi comme un chrétien. Tu peux dire Jésus, mais ton cœur dit que tu ne vas pas te convertir. Tu peux dire miséricorde, mais ton cœur dit Seigneur, il m'a blessé. Et pourtant tu le dis, mais ton cœur dit autre chose.
Sois béni Seigneur pour ton amour, pour ta grâce, pour ta lumière. Lorsque le Seigneur va se révéler à Faustine de Kowalska au XIXe siècle, il va apparaître à Faustine en ayant deux rayons qui sortent de son cœur. Il y a les rayons bleus et les rayons rouges. Les rayons bleus, signifient en fait la pureté, Dieu qui nous purifie. Et les rayons rouges signifient en fait le Seigneur qui nous donne sa vie. Les rayons rouges et les rayons bleus signifient en fait que l'homme a besoin de Dieu pour se sanctifier, qu'il ne peut pas se sanctifier de lui-même. C'est Dieu qui le sanctifie par son esprit et sa parole, et c'est Dieu qui lui donne d'être maintenu et de grandir dans la sanctification. Il est écrit que sans sanctification, nul ne peut plaire à Dieu. Nul ne peut, voilà. Mais la vérité aussi, c'est que la sanctification est un mouvement de la grâce de Dieu. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous prions aujourd'hui. J'aimerais juste, de tout ton cœur, que tu puisses crier à Dieu dans ton cœur pour lui demander la grâce d'une sanctification accomplie. La grâce, en fait, d'une sanctification qui brûle et déborde dans ton cœur. La grâce, en fait, d'être débordant de plaire à Jésus. C'est une grâce de l'Esprit. Koremba kata karabasonde, rembambambande keto shakatanene. Osoremba kata karabarokotonde, rimba kata sokotonde. Ereintaya baleto lobo shokoto, rimba talabakata katoko sakata karaba. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Bien-aimés, nous allons faire une prière et je vais donner les annonces et nous allons nous séparer. Cette prière va être tellement simple, mais c'est dans la simplicité que Dieu se déploie. Vous voyez, il y a des personnes qui ne vont pas comprendre ce qui va se passer justement après le temps de prière. C'est-à-dire, tu auras un regard différent des autres, vis-à-vis des autres. Tu auras un regard Amen. Différent vis-à-vis de ta personne. Toi qui te pensais costaud, tu vas réaliser en fait que tu n'es rien.
Amen.
Parce que beaucoup de personnes parmi nous, et même moi-même, ont vu souvent l'illusion de penser que nous sommes tellement meilleurs que les autres et que nous n'avons pas besoin de nous convertir. Oh, que c'est faux. Tu répètes après moi, Seigneur mon Dieu.
Seigneur mon Dieu.
Je supplie ta miséricorde. Oh Jésus. Comme le bon larron.
Comme le bon
je supplie ta miséricorde.
Je supplie.
Oh Jésus. Comme Zachée, je supplie ta miséricorde. Oh Jésus, comme Marie-Madeleine, je supplie ta miséricorde. Oh Jésus, je supplie ta miséricorde. Seigneur,
ne m'abandonne pas. Ô Dieu, sois présent dans mon cœur. Même si le monde m'abandonne, ô Jésus, manifeste-toi maintenant. Il y a quelques personnes qui vont avoir des paroles, des convictions, des cœurs, parce que Dieu est présent maintenant là.